Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Depuis hier, le Rwanda commémore les 25 ans du génocide des Tutsis, des commémorations qui vont durer 100 jours. 100 jours, c'est le temps qu'il a suffi entre avril et juillet 1994 pour qu'au moins 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, soient massacrées, et ce, dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale. Depuis hier, RFI vous propose une programmation spéciale. Vous avez pu suivre notamment ce matin la matinale en direct de Kigali avec de nombreux invités aux côtés de Nathalie Amar et de nos envoyés spéciaux. Et jusqu'à 11h, heure de Paris, je vous propose avec mes invités de répondre à toutes vos questions, des questions sur les causes des massacres de 1994, sur l'attitude de la communauté internationale à l'époque, le défi de la réconciliation, la traque des criminels, mais aussi des questions sur la reconstruction du pays ou encore la situation politique aujourd'hui. Une heure pour comprendre, vous nous rejoignez, le stand vous attend, 33 9 693 693 70, vous êtes nombreux à nous contacter et à nous avoir contactés depuis quelques jours déjà. Des questions également sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai évidemment quelques-unes, vos questions je les poserai à nos invités. À mes côtés, André Guichaoua, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes historien, spécialiste du Rwanda, vous avez notamment été témoin du début des massacres. Je souligne que de 1996 à 2015, année de la fermeture du tribunal pénal international pour le Rwanda, vous avez été témoin expert auprès du bureau du procureur du TPIR pour le Rwanda, et vous êtes encore témoin expert dans de nombreux tribunaux nationaux. À mes côtés, Sonia Rollet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, spécialiste de la région des Grands Lacs, vous avez été correspondante de RFI au Rwanda de 2004 à 2006. Avant de passer au standard, André Guichaoua, je le disais à l'instant, le 7 avril 1994, vous étiez à Kigali au titre de la coopération suisse. Dès les premières heures, André Guichaoua, est-ce que vous aviez pris conscience que la mécanique génocidaire était enclenchée ?
Elle était assurément enclenchée, si ce n'est envisagée par certains. Mais elle n'était pas fatale. Et ça a été la première réaction qui a prévalu vers 8h20 et quelques, quand j'ai été informé que l'avion avait été abattu.
L'avion du président Juvenal Habyarimana.
Juvenal Habyarimana
abattu la veille au soir.
Voilà. Donc, ça c'est le point de départ. Immédiatement, avec la représentante suisse, nous avons engagé une intense activité qui n'a pas cessé pendant une semaine pour récupérer, dans la mesure du possible, ou essayer d'organiser des protections vis-à-vis de ce que j'appellerais, peut-être un peu rapidement, mais des personnalités démocrates. Qui étaient immédiatement ciblés, qui ont été immédiatement ciblés. Et en particulier dans la nuit, des échanges ont eu lieu avec Agathon Ndiengimana, avec bien d'autres personnalités, et l'hôtel des Mille Collines...
Où vous résidiez à l'époque ?
Où je résidais, oui. S'est transformé très vite, en quelques heures, en un lieu où ont commencé à arriver ces personnalités. Presque quelques heures après, il a été encerclé par les gardes présidentiels, et le reste de la semaine a été vécu dans cet encerclement.
Ouais, vous aviez compris très tôt, très vite, qu'il s'agissait d'un génocide qui se déroulait, qui se tenait devant vos yeux ?
Non, au sens où, je dirais, ces mots étaient utilisés, régulièrement, mais à l'époque, la priorité était de prendre la mesure de ce qui était susceptible d'arriver en termes de contrôle politique de la situation. Et dans les premières heures en tout cas, au cours de la nuit, les réunions qui se sont tenues ne laissaient pas, dans un premier temps, envisager qu'il y aurait, à partir du début de la matinée, en fait très tôt, une véritable tentative de putsch organisée par Bagosora et vraisemblablement la famille présidentielle pour s'assurer le contrôle du pouvoir et éliminer ce qui normalement aurait dû se passer, c'est-à-dire la transition qui incombait à la première ministre d'opposition et qui, d'après les nouveaux textes d'accord, devait assurer la continuité en cas de vacances.
Sonia Rolla, deux mots, on parle de tentative de push, les auditeurs se disent, mais concrètement, que se tramait-il ?
En fait, à partir du moment où il y a eu l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, il y a eu un groupe d'extrémistes, en fait, Hutu, voilà, qui étaient des proches du président ou de la femme du président, et puis quelques militaires, qui ont cibler, en fait, les personnalités démocrates. Donc, il y a eu des assassinats un peu partout de ces personnalités. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il devenait difficile. Ça a été plus facile, en fait, pour eux de prendre le contrôle des institutions et puis d'imposer ensuite la politique qu'ils voulaient mener. Mais il aura quand même fallu plusieurs semaines dans certains endroits. Le génocide n'a pas commencé, par exemple. Il a commencé, par exemple, à Kigali, mais dans d'autres zones du pays, et je parle sous le contrôle d'André Guichaoua, et notamment dans les provinces du Sud, il a fallu parfois une semaine, deux semaines, trois semaines pour que les autorités ce qu'on appelle le gouvernement intérimaire, donc le gouvernement qui va mettre en œuvre cette politique d'État de génocide, eh bien, pour que ce gouvernement intérimaire, finalement, puisse le faire, il fallait supprimer, en fait, toutes les autres personnalités qui auraient pu prendre le pouvoir.
Je vous propose de passer au standard, et vous aurez l'occasion, tous les deux, évidemment, tout au long de cette émission, de nous livrer vos expertises réciproques. 33 9 693 693 70. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du Sénégal, nous vous écoutons.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous vos invités.
Bonjour.
Dans un pays où la moitié, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, quel regard porte cette nouvelle génération sur le génocide de 1994 ?
C'est une excellente question que vous posez, Alexis. 60% de la population au Rwanda a moins de 25 ans aujourd'hui. La génération post-génocide, qui n'a donc pas connu les massacres, doit elle aussi affronter le traumatisme collectif, André Guichaoua. Comment cette jeunesse perçoit-elle ce qui s'est passé en 1994 ?
Oui, elles n'ont pas connu personnellement le génocide. Mais elles ont des parents. Pour le dire autrement, cette génération n'est pas issue d'une génération spontanée. Ce sont les enfants de parents qui ont survécu à la guerre et au génocide, et au-delà, il faut le dire, à toutes les politiques d'encadrement mises en œuvre par les autorités, y compris les plus intrusives depuis lors. À ce titre, je pense que le legs du passé ne peut effacer les souffrances de la génération qui les a engendrées. C'est pourquoi, y compris au niveau de cette nouvelle génération, je pense que la paix des cœurs, et plus encore le pardon, ne s'impose pas par l'application rigoureuse de lois mémorielles, ni par la contrainte et la répression. C'est un mouvement qui doit être assumé par l'ensemble des générations, et donc aussi les parents.
Sonia Rollet, cette jeune génération, ce sont effectivement les enfants, les fils et les filles des survivants, des fils et des filles qui ont grandi très souvent sans grands-parents, sans oncles, sans tantes.
Oui, et puis alors, ce qu'il faut savoir, on parle souvent d'un héritage de la douleur, et c'est particulièrement fort au Rwanda, où c'est vrai que par exemple s'ouvre, mais comme tous les ans, 100 jours de commémoration dans ce pays, donc de commémorations qui ne sont pas... je veux dire, c'est des commémorations obligatoires. Il y a tout ce qui se passe à la télévision, il y a tout ce qui se passe dans la rue, il y a cette histoire qui est racontée donc par les autorités, qui sont portées aussi par une communauté rescapée. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une politique de répression sur les 25 dernières années qu'on peut pas nier, et qui ont encadré la parole au niveau de y compris de ces commémorations. Enfin, je sais que par exemple sur les commémorations de après le 10e anniversaire, c'était pas tout à fait les mêmes discours qu'on entendait par rapport au discours de maintenant. Non. Donc il y a une volonté du gouvernement de contrôler la politique et la mémoire. Il y a une histoire intime, en fait, de ces événements de 1994, où il y a à la fois, c'est vrai, les crimes de génocide. Donc il y a toutes ces victimes du génocide. Il faut aussi s'imaginer ce que c'est pour être un enfant de génocidaire ou de personne qui a été accusée de génocide. C'est quand même extrêmement lourd de vivre avec ce passé, et puis d'être rappelé constamment, renvoyée constamment à ce passé et à ce rôle-là, en fait, ou à cette, cette position-là d'être un enfant génocidaire. Et puis, il y a aussi, évidemment, en fait, tous ceux qui ont perdu aussi des parents à ce moment-là dans la guerre, soit sur les massacres de vengeance après... soit sur les crimes au Congo, et qui eux aussi ont, ont toute une mémoire en fait de crimes, qui ont perdu aussi leurs parents, et qui aujourd'hui ne peuvent pas du tout l'exprimer, jamais, et dans aucun contexte.
Au standard, une autre question qui nous arrive de Brazzaville. Bonjour, Dieu le veut.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
J'ai une question, j'aimerais savoir comment sont nées les tensions entre les Hutus et les Tutsis, qui ont conduit vers le génocide.
Alors, c'est une question récurrente également sur la page Facebook de l'émission. Faute de temps, on ne peut pas retracer l'histoire, toute l'histoire, mais c'est quand même important, André Guichaoua, de rappeler qu'à l'origine, Tutsi et Hutu constituaient finalement un seul et même peuple.
Oui, ça c'est l'essentiel. Quand la région a été colonisée, elle a rencontré, et ça a été tardif, hein, puisque c'était un peu la fin de la colonisation dans cette région, le cœur de l'Afrique, elle a été confrontée à au moins deux royaumes majeurs, celui, enfin ceux dont on peut parler là, c'est-à-dire le Rwanda et le Burundi, avec des monarchies, avec des États structurés, organisés, avec des tendances peut-être à la colonisation ou à l'élargissement, enfin etc., mais qui étaient composés, pour aller vite, de deux catégories sociales, disons les élites Tutsi et les populations Hutu, dont le clivage reposait pour l'essentiel sur des critères de pouvoir et de richesse.
Les tensions, elles apparaissent quand ?
Les tensions sont arrivées formalisées avec la colonisation, qui a avancé la thèse que ces élites Tutsi étaient issues des sources du Nil, de l'extrémité du Nil, c'est-à-dire un peuple élu, puisqu'il croyait en un seul dieu, pas reprendre toutes ces choses-là. Bon, ce qui est sûr, c'est que la colonisation les a exacerbés et formalisés avec les richesses, les pouvoirs. Au moment de l'indépendance, la Belgique a fait le pari de soutenir les revendications, non pas pour l'indépendance, mais pour l'émancipation économique et politique des populations Hutu. Et le pouvoir est revenu par le biais des élections, puisqu'elle représente à peu près 80% au peuple Hutu, entre guillemets. Et ça, c'est le point d'achoppement. Les élections donnent automatiquement, si on peut dire, ou mécaniquement, la majorité à des populations Hutu.
Puisqu'ils sont majoritaires.
Puisqu'ils sont démographiquement majoritaires. Bon, d'où les préventions envers ce que l'on appelle la démocratie, de la part des élites Tutsi, qui, dès les élections après l'indépendance et le pouvoir établi pour les élites Hutu, ont contesté par des incursions armées, et si on va très vite, dont la dernière a été le 1er octobre 1990, alors même, et ça c'est important, que dans la conjoncture régionale, à partir de 86, 87, 88, des aspirations démocratiques quasi irrépressibles s'exprimaient dans toute la région, en faveur de l'émancipation par rapport à des régimes autoritaires et prédateurs.
Sonia Rollet.
Et c'est, je pense, en fait, les deux tendances qu'il faut voir, c'est qu'il y avait une tendance, en fait, ouverte, qui était vers la démocratisation, et ça, on l'a vu avec le gouvernement d'Union nationale, puis on le voyait dans les discours, avec des gens qui s'exprimaient, en fait, ouvertement, et ça a toujours quand même été des pouvoirs qui contrôlaient la population au Rwanda, donc c'était un peu nouveau. Et en même temps, il y avait aussi ces opinions, enfin, certains qui véhiculaient, en fait, effectivement, une vision extrémiste et autre, et même, évidemment, dans les années qui ont précédé le génocide, et c'est pour ça que les gens se sont dit que ça aurait pu être évité, des discours extrémistes qui s'exprimaient aussi sur la place publique.
Abdoulaziz a une question à nous poser, il nous appelle du Togo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Nous vous écoutons.
Ok. Salut à tous les auditeurs RFI et merci de m'avoir donné la parole. Alors, ma question, c'est de savoir, pendant une vingtaine d'années, la France a cherché à établir la responsabilité du FPR dans l'assassinat du président Habyarimana. Pourquoi un si long acharnement est-elle sortie par un non-lieu ?
Pourquoi un tel acharnement pour finalement un non-lieu ? Sonia Rollet, la justice française a effectivement ouvert une enquête il y a plus de 20 ans. On rappelle qu'à bord de cet avion, le commandant de bord, le pilote et le troisième membre d'équipage étaient français. Leurs familles ont donc saisi la justice française. Pour au final, en décembre dernier, des juges d'instruction qui rendent une ordonnance de non-lieu.
Alors, ce qu'il faut se rendre compte, en fait, sur cette question de l'attentat contre l'avion, c'est que d'abord, c'est le TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, qui devait juger, en fait, ce crime, et que, la procureure du TPIR, et Carla Del Ponte l'a très bien raconté, s'est retrouvée face à un mur sur tout ce qui était crime du FPR, et n'était pas en mesure, en fait, de poursuivre, en fait, sur ce dossier. Donc, c'est vrai que la solution française, entre guillemets, et c'est vrai qu'elle en parle, l'idée de, à un moment, que ça soit une justice nationale qui le reprenne, ce dossier, c'était intéressant même pour eux. Sauf qu'évidemment, dans un contexte de rapport entre la France et le Rwanda, où il y avait des accusations réciproques qui étaient très fortes, des volontés de manipulation en fait du dossier qui étaient très fortes des deux côtés, et le reste, c'est vrai que la procédure judiciaire en soi n'a pas été sereine, ni d'ailleurs dans le dossier pour le juge Bruguière, qui avait plutôt accrédité la thèse du FPR.
Le premier juge d'instruction français saisi sur cette enquête.
Ni pour le côté Trévidic, qui lui aussi a rencontré des difficultés, et pour faire venir des témoins, et pour... il y a des témoins qui ont disparu. C'est vraiment... Il faut se repencher sur cette procédure. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui effectivement faisaient que la procédure n'était pas sereine. Et c'est vrai qu'à la... Pour ce non-lieu en question, on est dans un contexte particulier, en fait, également où les relations France-Rwanda doivent être mises en avant, parce que ça faisait partie, en fait, des éléments qui étaient exigés par le gouvernement rwandais pour une réconciliation avec la France, que ce dossier de mettre fin à des poursuites qu'ils estimaient injustes. Et c'est vrai que ce non-lieu arrive à un moment où, la rwandaise Mushikiwabo se retrouve à la tête de la francophonie. Et là, on voit qu'on a une magistrature française qui donne, en fait, des informations sur ce non-lieu concomitamment de ce moment-là. Donc, on a eu l'impression, en fait, que les juges voulaient envoyer aussi un message et que ça pourrait être aussi politique. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un dossier politique de bout en bout. Il y a une affaire judiciaire et il y avait un cas à juger. Mais ça n'a pas pu être fait dans des conditions sereines.
Donc ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas de procès en France s'agissant l'attentat du président Habyarimana, André Guichaoua?
Oui, c'était en fait l'enjeu, l'enjeu central. Alors, je voulais juste revenir un petit instant là sur les propos de Sonia Rollet. Bon, en fait, personne n'a voulu s'occuper de ce dossier dès le départ. Chacun savait ou imaginait savoir. Mais généralement savait quand même ce qui grosso modo s'est passé. Bon, sur ces bases-là, aucune structure internationale, pourtant elles ont été sollicitées immédiatement, n'a voulu s'emparer du dossier. Il était théoriquement dans le mandat du procureur du TPIR, qui n'a pas vraiment souhaité s'y mettre, et qui a rétrocédé le dossier à la France, qui, légitimement, du fait de la mort des pilotes, devait l'assurer. Bon, au-delà, si vous voulez, il y a eu une succession d'erreurs vraisemblables. Le premier dossier a été considéré comme instruit uniquement à charge.
Vous faites référence à Jean-Louis Bruguière.
À Jean-Louis Bruguière. Mmh. Et la première ordonnance qu'il a sortie, d'une soixantaine de pages, reposait pour au moins la moitié sur de l'intentionnalité. Bon, ça, c'est vrai que ça a cassé, si j'ose dire, la légitimité, entre guillemets.
Il nous reste 30 secondes, Sonia Rollet, avant de retrouver le service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, 25 ans après cet attentat, il n'y a toujours pas d'auteur identifié. On ne sait pas qui est derrière cet attentat.
Voilà. Et il n'y aura pas de procès sur ce dossier, en tout cas pas dans ces conditions-là. Et donc c'est vrai que la vérité judiciaire ne sera pas établie. Oui.
On prend le temps ce matin donc de vous répondre avec Sonia Rollet, journaliste au service Afrique de RFI, et André Guichaoua, historien spécialiste du Rwanda. Continuez à nous appeler, à nous rejoindre. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.